Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, 10 janvier 22. Bonne année à tout le monde. Il est encore convenable de se souhaiter bonne année à peu près jusqu'à la mi du mois. Et si vous ne savez pas que vous êtes en janvier, vous le saurez demain matin quand il fera un froid absolument arctique. Mais en attendant, on se tient bien au chaud et on a le plaisir d'avoir avec nous Ronald Beauregard, directeur général de la Fondation des aveugles du Québec, la fondation qui célébrait son 30e anniversaire il n'y a pas longtemps. Nous aurons également notre compagnie, Mme Nathalie Bière, qui est professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, et on va parler d'un projet innovant pour le quartier Côte-des-Neiges, une sorte de laboratoire vivant pour aider, entre autres, les personnes âgées qui sont en perte cognitive et qui vivent seules. Et nous aurons également le plaisir d'avoir Mme Laurence Parent, qui est maintenant à la Société des transports de Montréal. On sait que Mme Parent a été élue membre de l'équipe Valérie Plante et elle est dans une toute nouvelle chaise maintenant parce qu'elle est de l'autre côté de la table et elle est dans l'administration municipale. Alors voilà, tout ça à Sans détour. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Ronald Beauregard. Bonjour Ronald, comment ça va?
Bonjour François, ça va très bien.
Ça va très bien, merci. J'aimerais dire à tous nos auditeurs d'abord pour commencer, parce qu'on me pose souvent la question, Ronald n'est pas mon cousin. Alors, on a le même nom de famille, puis on est tous les deux dans la communauté handicapée visuelle, mais c'est simplement un addon comme ça. Mais je pense que je me fais demander une fois par mois, « Ah, M. Beauregard, êtes-vous en parenté avec Ronald? » Parce que pas mal tout le monde connaît Ronald après toutes ces années à la Fondation. Ronald, ça fait 30 ans, en 2021, que la Fondation a commencé.
Oui, bien écoute, oui, on a parti tout ça à l'automne 91. Par contre, on était un groupe d'amis, on était 5 individus impliqués dans la communauté. Il y avait Armand Hull, Armand Lafontaine, Albert Langlois, Jean Perron, on était tous des amis. Puis on se demandait de quelle façon on pourrait aider la communauté handicapée visuelle, de quelle façon on pourrait améliorer la qualité de vie des personnes de notre communauté. C'est de là où on a mis sur pied un service d'habitation puis un service de loisirs pour la jeunesse handicapée visuelle.
Puis là, depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Votre volet habitation, entre autres, a connu beaucoup de progrès, beaucoup de projets ont vu le jour au cours des 7-8 dernières années, puis c'est pas fini, je pense.
Non, c'est pas fini. On a, au moment où on se parle, 5 projets immobiliers existants. Le premier a vu le jour en 94, à peu près à pareille date. Je me rappelle très bien de l'hiver 94, il faisait excessivement froid.
Okay.
Pourquoi je dis ça, c'est que tous les samedis du mois de janvier, des amis puis moi, on louait un cube dans le but d'aider les familles qui emménageaient dans notre édifice, dans le but de les aider à emménager dans chacun de leurs appartements. Il faisait excessivement froid, là. Tu connais pas ta langue sur le friseur parce que
ouais. Donc, ça, c'est l'immeuble qui est, je pense, à l'est du boulevard Lafontaine, ça, je pense. À l'est de Hippolyte Lafontaine.
C'est celui qui est le plus à l'est, OK? C'est, pour ceux qui le connaissent, c'est résidence habitée Montréal.
Oui.
Ce sont 3 siplex qui ont la forme d'un U, un U en imprimé. Donc, ça, c'est le premier qui a vu le jour. C'est 17 appartements. Par la suite, on a eu celui dans le quartier de Rosemont, 28 appartements. A suivi celui près du Stade olympique, de la rue Bennett. Ensuite, Pierre-Bernard. Puis le petit dernier, le nouveau, Ben, on a vu le jour l'année dernière, à peu près à pareille date, celui de la rue Sherbrooke, qui est un 39 appartements. Mm-hmm.
Il n'est pas loin de celui de la rue Bennett, ça, je pense. C'est Sherbrooke dans l'Est.
Ben, lui, il est plus rapproché de résidence habituelle.
Ah, OK.
Le premier, les 17, puis le petit sur Pierre-Bernard, le petit.
D'accord.
Le petit, 12 appartements. Bennett, il est plus, comme je vous disais, il est près du Stade Olympique.
Oui, puis, oui.
Donc, il est dans Rosemont.
Parfait. Au total, ça fait 127 logements. C'est quand même une régie importante, là, gérer tout ce parc-là. Et pourtant, la liste d'attente de personnes handicapées visuelles qui souhaitent avoir un logement adapté à ses besoins, cette liste-là, elle, continue de s'allonger.
Oui, ça continue de s'allonger. Évidemment qu'on le publicise dans la communauté, auprès du grand public. Sans crier trop, trop fort parce qu'on crée des demandes qu'on n'est pas capable de remplir. Par contre, oui, les gens qui veulent s'inscrire sur la liste, il est toujours temps, soit en appelant au bureau ou encore en s'inscrivant directement en ligne. Il y a un formulaire qui est adapté, qui est assez facile à compléter. Mais si vous aviez des problèmes quelconques, ben, vous avez juste à appeler Mylène au poste 224 qui se fera un plaisir de vous aider à compléter le formulaire.
Là, vous avez pas arrêté avec 5 immeubles. Là. Vous avez d'autres projets. Moi, j'ai entendu dire que vous regardez du côté de la Rive-Sud.
Oui, parce que comme vous savez, comme tout le monde sait, il y a une communauté handicapée visuelle assez importante sur la Rive-Sud. Historiquement, ben, on a retrouvé à l'époque l'Institut Louis Braille qui a été fusionné Nazareth-Louis Braille, il y a l'école Jean-Colette, il y a le centre de réadaptation de l'Institut Nazareth-Louis Braille. Donc, il y a une forte communauté handicapée visuelle sur la Rive-Sud.
Mm-hmm.
On a un projet qui devrait voir le jour probablement 2023.
D'accord.
23 appartements qui vont être situés sur... la rue Grande-Allée à Longueuil, près de l'hôpital Charlemagne.
Ah oui, Grande-Allée qui est parallèle à Taschereau et qui est du côté Saint-Hubert de Taschereau, si je peux dire, près du quartier La Flèche, ça.
Exactement, c'est en plein ça.
OK. Parce que c'est
On a l'ancien hôtel de ville du quartier La Flèche.
Okay.
Qui est à deux ou trois coins de rue du futur édifice.
Ça, c'est un 23 logements qui va s'ajouter.
Oui, 23 logements, il va y avoir des 3,5, donc une chambre à coucher et quelques 4,5, deux chambres à coucher.
Avec l'expérience que vous avez accumulée en bâtissant des nouveaux immeubles au cours des années, vous avez certainement appris des choses qu'au cours des premiers essais, vous aviez peut-être pas à ce moment-là tout à fait saisi. Est-ce que les logements que vous avez sont mis à niveau au fur et à mesure que vous progressez dans votre technique d'adaptation?
Oui, je vous dirais que c'est beaucoup plus simple parce que, comme vous disiez, ben, on a développé l'expertise dans ce sens-là.
Exactement.
Les appartements sont beaucoup plus adaptés, pas uniquement aux conditions visuelles, mais... Aussi, on vise l'accessibilité universelle parce qu'on a une clientèle qui, en plus de la déficience visuelle, a souvent des incapacités associées, soit moteurs, intellectuelles ou encore auditives. Donc, on essaie de rendre nos adaptations un petit peu plus universelles.
Donc, on peut croire qu'à chaque immeuble, vous faites un peu mieux, puis en même temps, bien, ceux que vous gérez déjà, bien, eux peuvent continuer à s'améliorer. Alors là, ce projet-là sur la Rive-Sud, ça va vous tenir occupé pour les 12 prochains mois, mais vous arrêterez probablement pas là.
Non, parce qu'on sait qu'il y a une demande sur la Rive-Sud, donc on va sûrement commencer à travailler tout de suite un autre projet qui pourrait se réaliser sur la Rive-Sud. On devrait faire ça au cours de 2022, donc ce qui nous permettrait 2024-2025 d'avoir un autre projet sur la Rive-Sud.
Formidable. L'autre partie ou l'autre le revers de la médaille ou l'autre côté des activités de la Fondation, c'est tout l'aspect loisir pour la jeunesse. Comment est-ce que vous êtes capable de vous débrouiller dans le contexte actuel où on a toutes sortes de limitations?
Ben, on a une équipe assez extraordinaire au niveau du service de loisirs avec Steve Joseph à la direction. Mm-hmm. Il y a Alexandre, il y a Maxime, il y a aussi Michael. Donc, on a une belle équipe qui se tient au courant des différentes exigences sanitaires, des différentes demandes que la santé publique nous demande de respecter. Pour l'année dernière, à titre d'exemple, on avait été obligé de modifier un petit peu notre façon de faire. C'est-à-dire qu'à tous les samedis pendant l'hiver, on amène un groupe de jeunes faire du ski, soit dans les Laurentides, les cantons de l'Est. On les transporte, on leur fait passer la journée sur le centre de ski, puis après ça, on les ramène. L'année dernière, à cause des restrictions de la santé publique, ben on les transportait pas, on demandait aux parents de les amener jusqu'au centre. Puis la journée de ski se déroulait quand même très bien.
D'accord.
Cette année, on va les transporter, mais on va avoir des groupes un peu plus restreints dans le bus, mais on va utiliser d'autres véhicules aussi qui vont nous permettre quand même de donner le service au plus grand nombre possible de jeunes qui veulent venir faire du ski avec nous autres. Donc, on s'adapte quand même assez bien aux différentes consignes sanitaires en faisant preuve un petit peu d'imagination puis en travaillant un peu plus fort.
Puis c'est aussi, ce sont des activités hivernales, ça se déroule dehors, donc c'est certainement plus facile que d'organiser des tournois de goalball ou des activités à l'intérieur, qui ça, évidemment, il y a des limitations, sont tout autres. J'ai vu dans la programmation au cours des prochaines semaines, il y a une participation à la fête des neiges, des glissades, il y a un séjour au camp Bruchesi. Il y a un truc qui ça m'a interpellé, ça s'appelle du Sky Tag, trampoline et laser. Comment ça se fait, ça?
Il faudrait que je demande.
Steve.
Je demande à mon directeur qui soit présent. Steve, c'est une activité que je connais pas vraiment.
Non, ben, on peut imaginer qu'on saute sur une trampoline et qu'on essaie de se tirer dessus, là. Ça doit demander. OK, c'est pas pour les 30 ans et plus. On peut passer ça.
Non.
Exact. Ouais. Puis, et si tout va bien, ben, y a une cabane à sucre qui est un point fort, là, dans le calendrier des loisirs qui est prévu pour le début du mois d'avril. Parce que vous êtes un organisme à but non lucratif, mais votre financement à la Fondation, ça vient de vos propres efforts de financement. Comment est-ce que vous êtes débrouillé de ce côté-là? Parce que très longtemps, les spectacles humour aveugle étaient comme un incontournable dans la saison. Tous les gens de la communauté handicapée visuelle, puis beaucoup d'autres, parce que c'est un spectacle pour tout le monde, achetaient des billets, puis on allait passer une bonne soirée avec les humoristes de calibre. Comment est-ce que vous vous débrouillez pour maintenant maintenir votre financement dans une perspective de restriction sur les spectacles?
Ouais, ben comme vous disiez, oui, Humour aveugle, c'est une belle source de financement. Par contre, au fil des ans, on a quand même réussi à mettre sur pied différentes campagnes de levée de fonds auprès du grand public. On a du publipostage, on a également la Humour aveugle dont on parlait. On a quand même une salle de téléphonie.
Okay.
On a quand même une bonne campagne corporative. On a un bel appui du Québec Inc.
Okay.
On a les dons planifiés, évidemment. Donc, c'est toutes des choses qu'on a réussi à mettre en place au fil des ans. Puis, on ne se le cachera pas aussi, grâce à l'intervention du gouvernement fédéral l'année dernière, ça nous a donné un gros coup de main.
Oui, bien, les programmes qui ont permis à des organismes communautaires comme la Fondation de maintenir ces activités, parce que c'est sûr que les activités de levée de fonds étaient compromises. Alors ça vous a donné un bon coup de pouce. Parce que pour continuer à faire vos activités puis accroître votre parc immobilier puis offrir des loisirs aux jeunes, là, il faut continuellement que les gens pensent à vous, là.
Oui, il faut. Puis comme on le disait souvent, le grand public va se poser plein de questions sur les subventions qu'on trouve à droite, à gauche, ou encore plus particulièrement pendant la pandémie avec le Fonds d'urgence du Canada. Mais nous, de cet appui financier-là, c'est clair qu'on coupait, on était obligé de couper dans les services qu'on offre à notre clientèle. Ça, c'était assuré. Mais ça nous a permis, ça nous a donné les moyens qu'il fallait pour poursuivre ces activités-là. Parce que tout au long de 2020-2021, on a de façon générale offert à peu près les mêmes services qu'on
avait auparavant. Ça, entre guillemets, ça n'a pas paru, ou presque. Et ça, c'est à la fois, vous avez reçu un coup de pouce, mais c'est également, je dirais, le reflet de votre activité et de votre flexibilité puis de votre imagination pour être capable d'y arriver. Bien, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Ronald, de nous avoir parlé un peu de la fondation que tout le monde connaît, mais qu'on a aussi besoin de connaître davantage parce que c'est pas fini ce que vous allez faire, entre autres sur la Rive-Sud dans l'habitation. Merci beaucoup, puis on vous souhaite une excellente saison.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Merci. Sonny Steet, qui nous interprétait au sax, un classique, un standard en jazz, I Got Rhythm. Nous avons avec nous le plaisir de rencontrer, d'accueillir Mme Nathalie Bière. Mme Bière, vous êtes professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et responsable du projet, un projet innovant dans le quartier Côte-des-Neiges qui vise à mieux favoriser l'inclusion sociale des aînés, notamment ceux et celles qui vivent avec une perte cognitive. Mme Bière, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même. Bonne année 2022.
Je vous en souhaite toute une, merci. 2022, c'est dans l'accomplissement ou dans le projet que vous avez mis sur pied avec vos collègues dans le quartier Côte-des-Neiges, c'est un peu l'aboutissement. On est plus en fin de projet où on peut mesurer les acquis. Et c'est un projet qui porte le nom de Living Lab, de laboratoire vivant. De quoi s'agit-il?
Donc, alors c'est un projet qui a débuté il y a maintenant un petit peu plus qu'un an et demi, je dirais presque deux ans. Donc, on en a fait environ la moitié. Donc, on a fait quelques apprentissages, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. C'est un projet qui se déroule en laboratoire vivant, ce qui veut dire qu'on a une approche qui est très collaborative et participative avec toutes les personnes qui sont visées par le projet.
D'accord.
Donc, c'est un projet qui vise à rendre le quartier Côte-des-Neiges inclusif des aînés qui ont des problématiques de santé. Donc, que ce soit, par exemple, des problèmes de mobilité, donc à se déplacer dans le quartier, des problèmes cognitifs, par exemple, lorsqu'on a une maladie d'Alzheimer, ou des problèmes de communication qui peuvent être liés à un enjeu de santé, mais qui peuvent être aussi liés là, à d'autres problématiques liées au vieillissement lui-même.
Pourquoi Côte-des-Neiges? Parce que c'est pas loin de l'Université de Montréal, ça c'est facile, mais Côte-des-Neiges a quand même des caractéristiques, je pense, qui sont pertinentes à votre projet.
Oui, donc il y a cet enjeu géographique qui est très, très important pour nous, pas tant à cause de l'Université de Montréal que du centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie qui est en plein cœur de Côte-des-Neiges. Et comme équipe de chercheurs, on se disait, mais ça fait pas de sens d'être à l'intérieur d'un quartier et de ne pas pouvoir partager et recevoir aussi un partage de la part de la communauté, toutes ces connaissances qu'on acquiert là, par rapport aux enjeux liés au vieillissement. Donc, on souhaitait vraiment établir un dialogue, un meilleur dialogue avec la communauté qui nous entourait. Mais il y a aussi, évidemment, des enjeux particuliers à Côte-des-Neiges, notamment le caractère hautement multiculturel et donc de multiples visions du vieillissement aussi qui nous intéressent là, sur le moyen long terme.
Et il y a une proportion assez élevée de personnes de plus de 65 ans à Côte-des-Neiges, je pense. On parle de plus de 36 % de la population.
Oui, exactement. Donc, c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, oui, qui sont concentrées. Il y a certains quartiers à Montréal qui ont un taux, je dirais, de personnes âgées plus élevé.
D'accord.
Mais la particularité de Côte-des-Neiges, c'est vraiment cet aspect de personnes âgées, oui, mais dans un contexte multiculturel très important.
D'accord. Alors, votre projet était à la fois d'interagir avec le milieu et en même temps de regarder cette interaction-là et d'y apprendre quelque chose.
Oui, dans le fond, nous, on arrive comme chercheurs avec nos connaissances, je dirais, scientifiques, académiques, de qu'est-ce que c'est de vieillir en santé, quels sont les enjeux liés au vieillissement, entre autres là, les différentes problématiques de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais la communauté, elle, a un volet, si je peux dire, expérientiel qui est très grand, donc ils vivent ces enjeux d'inclusion des personnes âgées de manière quotidienne. Et donc, en partageant chacun ses connaissances d'un côté scientifique et d'un côté terrain, on avait l'impression qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et créer vraiment des belles innovations.
Vous avez été bien reçu par le milieu communautaire du quartier.
Tout à fait. En fait, quand on a commencé à réfléchir à ce projet-là, avant d'avoir une idée très claire de ce que ce serait, on a commencé par lancer un message d'ouverture à la communauté Côte-des-Neiges et en particulier aux organismes communautaires et municipaux en leur disant « Venez nous rencontrer, on voudrait discuter avec vous de cette possibilité de faire un projet pour mieux inclure les aînés du quartier. » Et on avait une table pleine, là, je peux vous dire, au moins une bonne trentaine d'organismes qui se sont présentés et plusieurs avec qui on est encore en contact aujourd'hui, avec qui on développe diverses innovations pour cette meilleure inclusion sociale des aînés.
Parce que comme le quartier Côte-des-Neiges est un quartier où des gens d'origine planétaire, il y a des gens de partout dans le monde qui vivent, qui sont maintenant des résidents de Côte-des-Neiges, il y a évidemment un milieu communautaire qui est assez fragmenté souvent, qui est en parallèle aux différentes origines ethniques des habitants du quartier. Alors, vous avez été capable de rencontrer tous ces gens-là et d'aller par eux et par elles rejoindre les personnes qui étaient souvent isolées, les personnes âgées qui avaient peut-être aussi des pertes cognitives qui accentuaient leur isolement.
En fait, je vous dirais que c'est ce que l'on vise à moyen et long terme. À très court terme, ce qu'on a décidé de faire pour commencer le projet, puisqu'on peut voir grand, mais des fois, c'est plus facile de commencer avec des petits pas pour s'en aller ensuite vers des plus grands pas. Donc, on a commencé par s'allier des organismes communautaires qui desservent toutes les populations sans distinction.
D'accord.
Notamment des organismes municipaux comme les bibliothèques, par exemple, qui reçoivent des gens de tous les horizons.
D'accord.
Et graduellement, on espère pouvoir soit développer des nouvelles collaborations ou poursuivre le développement de nos projets à travers différents organismes communautaires qui ciblent certaines communautés plus spécifiques. Mm-hmm. Mais à court terme, on vise rejoindre tout le monde et ensuite on deviendra peut-être un petit peu plus précis dans nos approches.
D'accord. Et est-ce que vous avez eu des succès ou capables d'aller rejoindre des gens ou d'ouvrir le quartier, de le rendre plus inclusif? Est-ce qu'il y a eu des pas qui ont été faits dans cette direction-là?
Oui, bien en fait, nos pas, ils ont avancé plus lentement avec le contexte de
la pandémie. Oui, ça c'est sûr, ça a été comme... ça, vous avez eu un vent de face un peu, là, oui.
Bon, un très grand vent de face avec notamment la suspension des projets de recherche pendant plusieurs mois avec la première vague et une deuxième suspension à partir d'aujourd'hui. Là, on vient de recevoir justement cette nouvelle information. Donc, c'est sûr qu'on avançait à plus petits pas. Ce qu'on a toutefois réussi à faire, c'est, bon, pour les trois volets de santé dont je vous parlais tout à l'heure, là, la mobilité, la cognition, la communication, ça a été de travailler avec des partenaires terrains. Donc, chacun des volets travaille avec soit un organisme municipal, soit avec un organisme communautaire. Des aînés aussi du quartier qui participent de manière très active au développement des différents projets, en particulier sur le projet mobilité et déplacement sécuritaire dans le quartier. Et donc, je dirais une de nos belles réussites, c'est d'avoir réussi à mettre tous ces gens-là ensemble en virtuel.
D'accord.
Et avec un petit peu de présentiel et de réfléchir à des solutions qui sont maintenant de plus en plus concrètes et qu'on espère pouvoir déployer, si tout se passe bien, là, si la pandémie nous le permet, d'ici la fin de l'année 2022.
Dans le contexte actuel, évidemment, c'est difficile, mais en même temps, c'est encore plus important de briser l'isolement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, là, de confinement et de déconfinement, de mesures à suivre, des choses qui étaient possibles, qui deviennent impossibles ou qui redeviennent possibles. Alors, la personne âgée qui vit peut-être des pertes cognitives, dans ce contexte-là, va avoir tendance à manquer le coche. Et ça peut à ce moment-là avoir des conséquences désastreuses. Est-ce que vous avez une idée un peu de ce qui doit être fait au-delà, après l'inclusion, de comment comment rejoindre les gens virtuellement ou physiquement? Est-ce que vous êtes à même de pouvoir les contacter?
Bien, à ce stade-ci, on en est surtout à accompagner les organismes dans comment bien recevoir cette clientèle. Et quand on sera prêt, on va définitivement pouvoir aller vers les personnes âgées plus isolées. Mm-hmm. L'objectif étant que si on offre des services qui sont mieux adaptés à leurs besoins, on espère qu'ils vont revenir plus souvent.
Oui, exact.
Et sortir de leur isolement, notamment si on a des services municipaux qui savent mieux répondre aux besoins des personnes.
Madame Bière, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie.
Ah, déjà?
Oui, malheureusement. On se reparle de ça.
Oui, merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
De retour après la pause, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Laurence Parent. Bonjour Madame Parent, comment allez-vous?
Bonjour Monsieur Leroy, très bien, et vous?
Ça va bien. On s'est parlé la dernière fois, les premières journées du mois de novembre. Vous étiez en pleine campagne, en fin de campagne électorale. Depuis ce temps-là, Madame Parent, vous êtes conseillère d'arrondissement du district de Lorimier, Plateau-Mont-Royal, et vous avez été nommée vice-présidente de la Société de transport de Montréal et présidente de la Commission permanente sur le transport et les travaux publics. Ouf! Ça n'est passé des choses depuis 60 jours.
Oui. Beaucoup de choses.
vous êtes passé d'un rôle d'une militante active qui faisait bouger les choses au profit des personnes à mobilité réduite, des personnes vivant en situation de handicap en région de Montréal. Et maintenant, vous êtes de l'autre côté de la table, d'une certaine façon. Comment vous vous y sentez?
Ben, je me sens bien. En fait, là, il y a eu quand même une transition, hein, effectivement. Ça fait un peu plus de 10 ans. Donc, je suis devenue militante. Puis, en 2017, j'avais été nommée sur le conseil d'administration de la STM comme représentante des clients de transport adapté. Donc, j'avais eu là cette transformation-là, un peu de mon rôle, avait commencé déjà il y a 4 ans. Donc si c'est ça, j'ai décidé de continuer dans cette voie-là, dans ce rôle-là.
C'est sûr que de la part de la communauté des personnes qui vivent en situation de handicap dans Montréal, on suit votre cheminement politique, puis ça crée à la fois un certain optimisme, là, puis en même temps, il faut être réaliste de ce que vous pouvez accomplir. Là. On ne peut pas vous donner un rôle messianique, ça serait plutôt dangereux. Est-ce que vous constatez maintenant, là où vous êtes, que les limitations du système ou les lenteurs du système, est-ce que vous êtes à même de dire oui, c'est ce que je pensais que ce serait, ou est-ce que c'est différent ce à quoi vous vous attendiez il y a 6 mois ou 1 an?
Il y a juste 6 mois ou 1 an, non, j'ai pas de surprise. À ce niveau-là, en fait, je pense que ce que j'ai appris dans les dernières années, en fait, j'ai eu la confirmation aussi de l'importance du rôle des militants. Des militants.
D'accord.
Ça, c'est une chose. Je pense que j'en suis plus convaincue que jamais. Tu sais, comme dans n'importe quelle cause sociale, si on prend par exemple la cause des femmes, tu sais, la première femme élue à l'Assemblée nationale du Québec, ben, je veux dire, il a fallu que le mouvement féministe continue aussi
oui,
son côté à tous les niveaux. Là. Donc ça, c'est une chose qui est pour moi évidente, qui va, j'imagine, toujours continuer de l'être de cette importance-là, parce que oui, ma position est différente. Je pense que ça, c'est extrêmement nécessaire d'avoir des personnes handicapées dans des places de pouvoir, là où des décisions se prennent. Mais c'est important que je pense que les gens, peut-être là, qui nous écoutent de la communauté, sachent que c'est extrêmement important également la mobilisation, les revendications, parce que dans le monde politique, quand même, on n'est pas insensible à ce qui se passe dans
la base,
société.
Oui.
À ce ça, tu sais, il y a vraiment, il y a des liens qui se font aussi, puis c'est pas parce que je suis maintenant élue que je suis complètement détachée aussi de la communauté. Je pense qu'on travaille.
Non, parce que quand vous sortez de chez vous le matin pour aller au bureau, vous avez les mêmes challenges que vous aviez il y a 2 ou 3 mois en termes d'accessibilité puis de facilité de vous déplacer au moins. C'est sûr que de ce côté-là, ça n'a pas changé.
Alors, votre véhicule est le même. Je me déplace en fauteuil roulant encore aujourd'hui.
Exactement.
Même si j'ai été élue.
Voilà.
Mais je pense que ma réponse serait probablement différente si j'avais été élue, par exemple, il y a 10 ans.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution par rapport à l'importance de l'accessibilité au niveau politique versus il y a 10 ans. Tu sais, je veux dire, mes collègues et tout ça, il y en a...
Une ouverture.
Certainement un engagement même aussi, là, tu sais.
Exact. Mm-hmm. Parce que vous étiez, jusqu'à récemment, la représentante au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Vous étiez la représentante des usagers qui est en situation de handicap. Et là, vous cherchez quelqu'un pour vous remplacer. Je suppose que vous devez commencer à recevoir des candidatures, ainsi de suite. Est-ce que vous avez une idée du profil que vous cherchez ou comment ça va se faire?
Ben, en fait, il y a eu un appel là, qui a été fait.
En décembre?
En décembre, exactement. La date limite était le 27 décembre pour déposer sa candidature. Puis ce qu'on recherche, dans le fond, c'est une personne qui, évidemment, a une expertise dans un des champs. Bon, vous savez, la STM. C'est une grande entreprise, donc on fait autant du développement de projets que des ressources humaines, du service à la clientèle, c'est très, 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 très large. Également, l'expérience client, pour moi, c'est très important, surtout pour un poste de représentant des clients de transport adapté. Je veux dire, ça prend quelqu'un qui prend le transport collectif, évidemment. Puis, également, qui va être capable d'être sensible aux besoins divers des personnes handicapées, parce que, comme vous le savez, on est une communauté qui a diverses.
Oui, on a toutes sortes de difficultés, chacun d'entre nous, à notre manière. Là,
Exactement. Donc, c'est pas un poste où on arrive pour parler seulement de moi, ce que je vis, mais plutôt de tout ce que la communauté vit. Puis, évidemment, une capacité de travailler en équipe, c'est super important. On est un conseil d'administration de 10 membres. Donc, c'est ça, on commence les entrevues cette semaine et on espère pouvoir proposer quelqu'un. C'est le conseil d'agglomération de Montréal, ultimement, là, qui va nommer cette personne-là.
Les priorités que vous vous êtes fixées, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans les prochains 24 mois, pardon, par exemple, jusqu'à mi-mandat?
Bien, je peux pas m'empêcher de faire, malheureusement, là, de parler du contexte dans lequel on se trouve.
Ça, c'est
là.
Sûr.
Si on avait fait l'entrevue il y a un mois, je vous aurais dit la priorité, c'est de ramener les clients dans le transport collectif. On avait un beau plan pour janvier. Et là, ben, vous savez, avec le nouveau variant, tout a changé. Donc, à l'AFM, on est comme pas mal dans toute la société, un peu dans cette tourmente-là, de cette incertitude-là. Donc, c'est très difficile de parler du futur, mais évidemment... Vous savez que l'accessibilité, pour moi, c'est une priorité, pas juste pour moi. Là. Pour la STM, on a des gros chantiers, c'est des énormes projets, notamment au niveau du métro, on le sait, c'est des dizaines de millions de dollars, puis il y a plusieurs chantiers qui sont là, présentement en cours. Donc, en 2022, ça va quand même être une bonne année pour ce qui est de l'accessibilité du métro par ascenseur. Puis souvent, ça vient avec d'autres choses aussi, là, une signalétique qui est amélioré, des choses comme ça. C'est un énorme chantier de l'accessibilité universelle.
Parce que je pense que vous avez... Pour ce qui est des stations de métro, entre autres, le but, c'est de doubler ou à peu près là, le nombre de stations qui sont équipées d'ascenseurs, là, de passer de 19 ou 20 à plus de 40. L'échéancier s'est étiré un peu, parce qu'à un moment donné, on parlait de 3 ans. Maintenant, on est rendu à 5. Là. Mais on sait que c'est toujours un peu comme ça quand on parle du métro. C'est toujours plus long et plus coûteux qu'envisagé au début.
Oui, puis vous savez, dans la première phase, c'est des stations qui avaient été identifiées. Un des critères était le degré de complexité des stations. Donc, il y a plusieurs stations qui sont en cours présentement, qui sont des stations qui avaient été identifiées comme étant plus faciles.
D'accord.
Donc là, on a plusieurs stations qui restent à faire et qui sont complexe. Donc, c'est vraiment des défis énormes.
Oui.
Donc, de s'assurer là, que ça reste sur le radar, que ça demeure une priorité malgré le contexte qui n'est pas simple. Au transport adapté aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'est le système qui est tellement important. Puis, avec les années, ben, la part de contribution de la Ville de Montréal a augmenté. Parce que les coûts ont augmenté, mais le financement de Québec n'a pas suivi l'augmentation des coûts. Donc, il y a cet enjeu-là aussi de s'assurer de la disponibilité du transport adapté pour les clients du transport adapté. Si je peux donner un élément plus positif, là, cette année, il va y avoir un ajout sur CIRTA par rapport à la localisation du véhicule qui devrait être amélioré. Là, donc, encore une fois, pour limiter un peu ici, vous savez, là, le sentiment de transport adapté, quand est-ce que le véhicule arrive.
Oui, cet aspect de navette, là, comme quoi c'est un circuit, puis c'est pas long que s'il y a un pépin ou un chantier de construction sur la voie publique, ainsi de suite, là, tout l'horaire est chamboulé. Vous avez aussi certainement des aspirations dans un sens plus large, au-delà du transport en commun, en logement, entre autres, là, et en accessibilité des commerces ou des lieux.
Ben, je peux dire peut-être quelques mots. Là, j'enlève 2 secondes mon chapeau STM pour mettre mon chapeau conseillère pour le plateau Mont-Royal. Donc, ben, sans surprise, c'est moi là, qui vais être en charge de l'outil de l'accessibilité universelle dans l'arrondissement. Puis on a un engagement très clair à faire le plus qu'on peut dans ce mandat-ci. L'accessibilité des commerces, c'est une chose. Vous avez parlé du logement. On a plus globalement, vous avez entendu parler des enjeux de rénoviction.
Oui, exact.
Des choses comme ça. Donc, l'accessibilité physique, mais aussi l'abordabilité du logement, qui est vraiment un enjeu super important, là. Donc, c'est vraiment pas les dossiers qui manquent, je vous dis.
Parce que le plateau Mont-Royal, elle peut être une sorte de petit laboratoire, étant donné la densité de la population et de la diversité du bâti. Vous avez des commerces, des logements, des rues piétonnières ou presque, des rues commerçantes, toutes sortes d'immeubles. Alors, l'accessibilité que vous allez pouvoir y développer va servir peut-être de tremplin à d'autres quartiers de Montréal.
Oui, je pense qu'on a une belle opportunité d'essayer des choses, de mettre en place des choses. Mm-hmm. Puis notamment avec le transport, la station Mont-Royal, qui est quand même oui. une des stations très importantes sur le plateau, qui devrait être accessible en 2022.
Parfait. Ben, Madame Parent, on va suivre ça de près. Vous avez un certain engagement auprès des Montréalais, Montréalaises qui vivent en situation de handicap. On comprend que vous ne pouvez pas tout faire, puis en même temps, on espère beaucoup. Alors, on va certainement se reparler au fur et à mesure que les dossiers vont avancer, en espérant que le contexte nous le permette. Alors, Madame Parent, merci. Et on vous souhaite un bon début de mandat, même si parfois c'est pas facile.
Merci. Bon début d'année à vous et vous.
Parfait. Merci.
Au revoir.
All Things Must Pass de George Harrison. J'avais le goût d'écouter cette chanson-là aujourd'hui avec vous parce que, d'une part, j'ai été ravi par le documentaire Get Back sur les Beatles pendant le temps des fêtes. Ça a comblé quelques soirées où il était un peu confiné. Et aussi, ben, le thème de dire que toute chose finit par se terminer, que rien n'est n'est perpétuel. Alors, ça nous donne un peu de courage. Alors, quand on ne voit dans les journaux que des nouvelles au sujet de ce dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qu'on en parle toujours indirectement parce que on commence à être un peu tanné de la pandémie. Mais il ne faut pas oublier que tout finit par s'effacer et qu'un jour, à la fin de la nuit, le soleil se lève. Cela dit, en parlant de soleil qui se lève, Madame Campagna, encore une fois, vous vous êtes levée de bonne heure ce matin. Vous avez fait le tour de la planète. Comment allez-vous?
Je vais très bien, vous?
Ça va très bien, merci. Alors, je vous cède le micro pour faire votre revue de presse.
Oui, bien, je voulais reparler du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. C'est bien entendu dans ce contexte-là qu'on a parlé, vous avez parlé à Mme Bière tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Mais je voulais donner d'autres nouvelles de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui rappelle qu'en 2022, 163 000 Québécois seront atteints d'un trouble neurocognitif majeur. Évidemment, il y a le vieillissement de la population qui amène une aggravation là, de ces chiffres-là. Dès l'âge de 65 ans, le risque de développer un trouble neurocognitif double tous les 5 ans. Mmh. Alors, on prévoit que d'ici 2040, le nombre de personnes atteintes aura doublé et représentera 300 000 personnes.
Parce que la population vieillit. Ça,
et
il
voilà.
Faut... Donc, les maladies liées à l'âge ou qui sont plus prévalentes là, vont faire partie de notre quotidien.
Voilà. Et parmi les actions de la Fédération québécoise de société Alzheimer, il y a de participer à des projets de recherche. On a parlé d'un de ces projets tout à l'heure. Il y a aussi le programme Un cerveau en santé, mm-hmm. qui est un programme éducatif en ligne pour les personnes âgées qui est axé sur la prévention des facteurs de risque associés aux troubles cognitifs majeurs. D'accord. On a lancé une application qui s'appelle HART, mais H-A-A-R-T, là, pour l'évaluation des applications destinées aux personnes atteintes et destiné aux prochains aidants.
OK.
Aussi, en décembre dernier, le site référenceaidancequebec.ca, mm-hmm. Porté par le gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, l'appui pour les prochains aidants a été lancé. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus là-dessus, Hélène Denis a eu... Oui. Non, pas Hélène Denis, elle n'était pas là la semaine dernière. Notre collègue Yvan Deslauriers a parlé à
okay.
quelqu'un.
Mais à la place d'Hélène, c'est-à-dire le matin.
Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez retourner sur notre site web pour écouter l'émission de vendredi dernier au quotidien. Il y avait une entrevue avec une représentante de l'appui pour les proches aidants qui explique, parce que moi j'étais intriguée entre autres par c'est quoi la différence entre ce site-là et la ligne Info Aidant, là. Donc vous avez tout ça dans cette entrevue. Tout ça est relié au lancement du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants qui avait été annoncé il y a quelques
l'automne
mois, mais dont
dernier,
les actions
oui.
plus concrètes ont été annoncées là, l'automne dernier.
Mm-hmm.
La société nous rappelle aussi qu'un nouveau médicament est actuellement en cours d'évaluation par Santé Canada et l'INES, le Aduhelm, et il a été approuvé en juin 2021 par la Food and Drug Administration, la FDA aux États-Unis, sur une base restreinte, et qu'il s'agit du premier traitement modificateur de la maladie depuis près de 20 ans.
Oh, ça s'appelle comment encore?
Ça s'appelle le Aduhelm, A-D-U-H-E-L-M.
Comme on dit dans les réclames, parlez-en à votre médecin.
Oui, bien là, je pense pas qu'ils sont rendus tout de suite à le donner au grand public, mais c'est toujours quand même de l'espoir quand on apprend là, que
oui,
pour la première fois
fait.
Depuis longtemps, on a une avancée du côté de la médication. Là.
Et de la part des sociétés Alzheimer, on sait qu'entre autres, leur programme Baluchon, fait aussi des taches d'huile parce que d'autres organismes utilisent un peu la même logique pour aider les proches aidants à avoir un peu de répit.
Oui, voilà.
Pas juste pour ce qui est des situations d'Alzheimer, mais dans un sens plus large.
Maintenant, on s'en va à New York, qui va devoir installer 9000 dispositifs de signalisation sonore pour les piétons malvoyants.
Mm-hmm.
C'est un juge fédéral qui a ordonné ça à la municipalité de New York le 27 décembre dernier.
Donc, ils sont obligés de le faire. C'est une intéressante jurisprudence là, qui est créée.
Oui, c'est une affaire qui a démarré après qu'un organisme à but non lucratif qui représente des personnes qui ont une déficience visuelle ont poursuivi la ville. Ça a commencé en octobre 2018. Et déjà, plus tôt cet automne, un juge avait statué que l'infraction de la ville, qu'il y avait infraction, là, dernièrement, ça a été plus une précision là, sur ce qui devait être fait. En fait, l'avis publié le 27 décembre ordonne la nomination d'un contrôleur fédéral chargé du suivi de l'installation des signaux sonores sur plus de 13 000 intersections de la métropole.
Et si c'est à New York, pourquoi ce ne serait pas à Boston ou à Cleveland ou à Chicago ou ainsi de suite?
Mais en fait, ça, il semble, d'après ce que j'ai pu lire dans les différents articles, que New York avait un certain retard dans ce domaine-là. Pour une ville où pourtant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de...
Mais beaucoup d'intersections, en tout cas, oui.
Beaucoup d'intersections, ça, c'est certain. Les avocats ont dit que c'était un bon signal, justement, non seulement pour la ville de New York, mais pour toutes les autres agences du pays qui ont ignoré là, les besoins des personnes ayant un handicap visuel. Donc, le juge a donné raison en octobre dernier. Et la ville, bon, évidemment, a déjà commencé à accélérer l'installation après le dépôt de la plainte, mais elle était encore loin là, du rythme nécessaire pour rendre les infrastructures plus accessibles rapidement. L'incapacité à installer la technologie plus largement, a écrit le juge, entrave l'indépendance des personnes qui en ont besoin.
Tout à fait.
Et il a aussi communiqué que, selon lui, c'était pas un problème de manque d'argent, mais de priorité qui avait amené à cette négligence et donc qui avait violation de l'American with Disability Act et qu'il fallait désormais agir.
Alors là, on parle de signaux sonores aux intersections à New York. Et on parle de 9000 intersections, ça couvre quand même une partie non négligeable. Je ne sais pas, il y a combien de dizaines de milliers de kilomètres de rue à New York, là, mais ça fait un bout de chemin.
Ce sont des signaux sonores, mais il y a aussi une vibration qui peut aider les personnes ayant un handicap auditif.
Ce serait bien aussi d'avoir un petit tapis tactile là, en pinouche de caoutchouc, là, mais ça, c'est autre chose.
Oui. J'ai vu d'ailleurs une autre nouvelle pendant les fêtes, que parfois ils sont des surfaces tactiles au coin des rues. Parfois, les villes les posent vite et ils sont mal enlignés et ils peuvent envoyer la personne dans la mauvaise direction
Oui, on peut imaginer que vous pensez que vous faites face au coin de rue de l'autre côté, mais finalement vous avez comme un petit angle puis vous commencez à déborder du côté des autos qui sont à votre gauche, là, par exemple.
Oui. Exactement.
Et puis il y a aussi, pardon, si je peux me permettre, il y a aussi le fait que pendant l'hiver, quand il y a de la neige, c'est pas facile toujours à trouver.
Non, en effet.
Voilà.
À une certaine époque, j'avais traversé un grand boulevard à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'hiver, on pouvait pas se rendre au bouton pour faire changer la lumière.
Ah non? OK. Fallait attendre qu'il y ait personne?
Presque. Ou en tout cas, s'enfoncer dans la neige.
OK.
On va maintenant du côté de la France. Évidemment, nous, on n'avait pas d'émission le 4 janvier dernier, mais c'était la journée internationale du braille qui coïncide avec l'anniversaire de naissance
de Louis Braille.
Et c'est la journée qu'a choisie la Fédération des aveugles de France pour prendre les devants là, pour l'accessibilité à la lecture. Alors, on a notamment contacté des politiciens, mais aussi les académiciens. Parce que, bon, la présidente, Anne Renoux, dit la situation face aux aveugles de France au regard de l'accès aux livres n'est plus tolérable. 8% seulement des livres sont accessibles pour nous. C'est indigne d'un pays qui se targue d'être un grand pays de culture.
Oui, tout à fait. Si on pense littérature, on pense à la France assez rapidement et l'Académie française peut être gardienne de la langue, mais il faut aussi qu'elle soit accessible sous toutes ses formes.
C'est ça. Et elle a dit que ce n'est pas une faute que les technologies existent. Donc, ce qui nous manque, ce sont les moyens. Mm-hmm. Alors, on a décidé de s'adresser personnellement à l'ensemble des parlementaires de la République et aussi aux académiciens, parce qu'il y a ceux qui font la loi, qui contrôlent l'exécutif, et justement, aux académiciens à cause de leur rôle de protection de la langue. Elle rappelle que la Fédération regroupe plus de 50 associations sur le territoire national et qu'ils ont déposé, il y a déjà plus de 3 ans, un projet visant à permettre aux personnes aveugles de lire le livre de leur choix, dans le format de leur choix, dans des délais raisonnables de 2 à 3 semaines tout au plus, et ce, au prix du marché.
Oh, voilà. Oh, ça fait... Je comprends le principe, mais ça va être une longue bataille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir. On veut aller dans ce sens-là, mais et le principe lui-même comment je dirais ça, vertueux et normal, que c'est simplement normal qu'on ait accès, mais ça va être une longue côte à gravir, ça, je pense bien.
Absolument, parce qu'en ce moment, les personnes paient leur livre braille de 3 à 4 fois plus élevé que les
exact.
Livres ordinaires.
Tout à fait. Là, il faut une volonté politique pour absorber les coûts.
Oui, parce que ce sont les seuls citoyens à faire exception à la loi relative au prix unique du livre.
Ça, c'est indéfendable, ça. Voilà.
Et on parlait de médication tout à l'heure. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a une biotech française qui s'appelle AB Science qui annonce avoir obtenu le feu vert pour lancer des essais sur une nouvelle molécule pour la lutte contre la sclérose en plaques.
Oh, OK.
Ils avaient eu un retard parce qu'il y a certains... en clinique, certaines personnes avaient eu des problèmes cardiaques, mais là, c'est réglé. Ils ont reçu notamment le feu vert justement de la FDA aussi aux États-Unis. Et l'objectif de l'étude, donc, est d'évaluer l'effet de cette molécule-là qui bloque le fonctionnement d'une cellule qui, elle, est suspectée de jouer un rôle là, de contrôle du système immunitaire parce
d'accord.
que c'est une maladie auto-immune.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, à ce jour, on n'a pas encore trouvé de médicaments qui ciblent ces cellules du système immunitaire. Mm-hmm. Et on a donc espoir que cette nouvelle molécule sur laquelle travaille AB Science
pourrait être la clé. Oh, eh bien. Ben, Madame Campagna, ça m'a fait plaisir de renouer avec vous pour l'année 2022. Madame Campagna, vous êtes notre recherchiste à la fois indispensable et infatigable. Je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine. Également, on tient à remercier notre techmeister, Nicolas Zwartman, sans qui aucun bouton ne serait enfoncé. Voilà. À la semaine prochaine, tout le monde.